Avant de faire, à la demande de M. l'abbé Rosco, un exposé de 30-40 minutes sur le thème La Salette et Fatima, je voudrais simplement déblayer au préalable la question des documents sur le sujet, parce que les paroles s'envolent, les écrits restent, et je crois que si vous intéressez à ce sujet, il est très important que vous ayez un minimum de documentation précise sur ces deux apparitions fondamentales. Sur Fatima, j'ai apporté ici la brochure de l'AFS, Un éclair dans le ciel Fatima, qui est un résumé du sujet, y compris les aspects politiques de Fatima. Comme ouvrage de fond, vous avez les ouvrages qui ont été publiés par la CRC, par le frère Michel de Sainte-Marie, et qui ont été repris et prolongés par le frère François-Marie des Anges dans l'ouvrage intitulé « Fatima, joie intime, événement mondial ». Vous aurez ça facilement ici par la CRC canadienne. Enfin, comme petits ouvrages faciles à manipuler, vous en avez trois qui coûtent $1 pièce, je vous conseille de les prendre, je vais les apporter à stock ici. Un très bon résumé du père Joseph, du père Light, jésuite portugais, intitulé « Les apparitions de Fatima », pour $1, ça vaut la peine. Un résumé sur la dévotion au cœur immaculé de Marie du même jésuite, si l'on fait ce que je vais vous dire, on aura la paix. Et ensuite un exposé sur cette même dévotion par le père Covelier, la dévotion des premiers samedis. Voilà trois petites brochures faciles à diffuser, qu'on peut mettre dans des enveloppes et qui sont vraiment assez solides. Enfin, sur le troisième secret de Fatima, vous avez édité au Canada par la CRC un exposé du frère Michel de la Sainte-Trinité qui résume son bouquin sur le troisième secret de Fatima. Donc sur Fatima, vous avez des documents assez abondants, le tout c'est de les posséder et de les lire. Sur la Salette, je suis moins au courant que la Salette, mais heureusement nous avons parmi nous Yves Germain, qui connaît le sujet beaucoup mieux que moi. Il y a ce qu'on trouve en France, c'est il y a trois ouvrages chez Teki, et Teki, vous avez un diffuseur à Montréal qui est Claude Messonnier Diffusion, donc vous pouvez les avoir facilement. Vous avez la vie de la Mélanie Calva, la bergère de la Salette, par l'abbé Gouin, c'est une base historique remarquable qui est encore diffusée par Teki. Vous avez l'étude de Monsieur Dion, intitulé Mélanie Calva, bergère de la Salette, un livre absolument passionnant, dans lequel il rassemble toute une série de documents par thème. Et vous avez ensuite la vie de Mélanie Calva par elle-même, les premières années de sa vie jusqu'à l'apparition, qui ont été également publiées par Teki. Enfin, M. Germain a pu reproduire quelques exemplaires du livre de Léon Bois, Celle qui pleut, Notre-Dame de la Salette, qui est un très beau livre. Voilà comme documentation ce qu'on a sur ces différents sujets. Alors, ce que vous pouvez acheter ici, c'est ces brochures-là, toutes les petites brochures, j'en ai un stock ici. La brochure bleue, Un éclair dans le ciel Fatima, qui se rapporte également à la Salette, puisque dans cette brochure figure en annexe le texte complet du secret de la Salette. Donc vous avez 8 pages sur la Salette dans la brochure sur Fatima. J'aborde le sujet la Salette de Fatima. Pourquoi parler de ce sujet? C'est parce que parmi les apparitions fondamentales, importantes, reconnues par Rome, de la Vierge Marie au XIXe et XXe siècle, les quatre principales, autant qu'on puisse mettre un degré d'importance, sont l'apparition de la rue du Bac en 1830 avec la médaille miraculeuse, l'apparition de la Salette le 19 septembre 1846, l'apparition de Lourdes en février 1858, et Fatima de mai à octobre 1917. Parmi ces quatre apparitions, il y a visiblement, en ce qui concerne la Salette et Fatima, une sorte d'indifférence universelle pour le message et une sorte d'opération de blackout. Ce sont celles dont les messages ont été visiblement les plus éliminés, ou du moins les plus déformés dans le monde catholique. C'est une des raisons qui nous conduit à y attacher une importance particulière. Je vais donc parler de la Salette et de Fatima de la façon suivante. Un rappel très rapide sur la Salette, un rappel très rapide sur Fatima, et ensuite une comparaison des deux et les conclusions qu'on peut en tirer pour notre gouverne personnel. La Salette, vous la connaissez, c'est l'apparition au cours de laquelle la Vierge Marie, en donnant son message à Mélanie Calva et à Maximin Giraud, les deux bergers qui ont reçu ce message, à pleurer. C'est pour ça que c'est vraiment le message de la Vierge en pleurs. Quel est l'historique de cette apparition? J'ai schématisé le tableau. Cette apparition a donc eu lieu le 19 septembre 1846. Ont été bénéficiaires de l'apparition deux enfants qui gardaient leurs vaches dans la montagne à 1700 mètres d'altitude. Mélanie Calva, qui avait 15 ans à l'époque, et Maximin Giraud, qui n'avait pas tout à fait 11 ans. La Salette se situe entre Grenoble et Gap, dans les Alpes françaises. Cette apparition a été reconnue véridique par l'ordinaire du lieu, un saint évêque, Mgr de Bruyard, qui a fait une enquête approfondie et qui a reconnu l'apparition comme étant véridique le 16 novembre 1851. Que sont devenus Mélanie Calva et Maxima Giraud? Ils ont mené une vie héroïque, l'un comme l'autre, extrêmement sainte. Ils ont été persécutés d'une manière ahurissante et extraordinaire. Ils ont été l'un comme l'autre totalement fidèles à la mission que leur avait donnée la Vierge Marie. Et ils sont morts, l'une, Mélanie Calva, en 1904, entre la nuit du 14 au 15 décembre 1904, et Maxima Giraud est mort en 1875. Et la mission qu'ils avaient, c'était de faire connaître le message de la Salette, dont une partie secrète devait être divulguée d'après les ordres de la Vierge Marie, en 12 ans après les apparitions, c'est-à-dire il devait être divulgué l'année même de l'apparition de Lourdes, en 1858. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on trouve à la Salette, comme à Fatima, et c'est un des points de comparaison des deux apparitions, on trouve à la Salette comme à Fatima le fait que, en dehors de l'apparition principale, du 19 septembre 1846, il y a eu Mélanie Calva a été favorisée par d'autres apparitions à titre personnel. Elle a vécu de la familiarité de l'enfant Jésus et de la Vierge Marie pendant une partie de sa vie. Et donc c'est faux de limiter l'apparition de la Salette au 19 septembre 1846, puisque Mélanie Calva a eu l'occasion d'être aidée directement par l'enfant Jésus et la Vierge Marie, aussi bien avant l'apparition du 19 septembre 1946, qu'après, où il a été soutenu pour la diffusion du message. Quels sont le contenu du message de la Salette? Vous avez, il faut distinguer ce qu'on appelle le message public, qui a été révélé immédiatement, dès le début de septembre, dès le 19 septembre 1846, et dans lequel, principalement, entre autres choses, la Sainte Vierge disait qu'elle avait du mal à retenir le bras de son fils qui voulait châtier le monde à cause de ses péchés, et que les deux, parmi les péchés qui faisaient le plus de peine à notre Seigneur, il y avait la profanation du dimanche et le blasphème. À côté de ce message public révélé, qui a été révélé au moment des apparitions, il y avait un message secret destiné au pape Pie IX, qui a été remis au pape Pie IX en 1851 et qui n'a jamais été divulgué. Vous avez un deuxième message secret qui a été confié à Mélanie Calva dans deux versions. L'une, version destinée au pape Pie IX, une version du même secret mais un petit peu différente, et qui était destinée au peuple chrétien et qui devait être resté secret d'après les instructions précises de la Vierge jusqu'en 1858 et qui devait être divulgué juste en 1858. Et de facto, comme l'autorité ecclésiastique ne voulait pas le divulguer, Mélanie Calva a vu que c'était sa mission de le faire connaître sous forme de manuscrit à partir de 1860 et sous forme d'une édition avec imprimature de l'évêque de Lecce en 1879. Enfin, il y a un message confié à Mélanie Calva qui donne la règle d'un nouvel ordre religieux, les apôtres des derniers temps, tout à fait dans l'esprit de ces apôtres des derniers temps dont on voit le profil défini dans les œuvres de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Quelques mots sur ces deux messages, je passe très vite parce que le temps est court. Le début de la partie publique, la Vierge Marie disant aux deux enfants: « Avancez mes enfants, n'ayez pas peur, je suis ici pour vous annoncer une grande nouvelle. Sinon, mon peuple ne veut pas se soumettre. Je suis forcé de laisser aller la main de mon fils, elle est si lourde et pesante que je ne puis plus la retenir. » Et l'essentiel de ce message, enfin, la partie importante de ce message, c'était, je répète, l'insistance sur ces péchés très graves qu'il faut absolument éliminer, la profanation du dimanche et les blasphèmes. Et quand on voit ce qui se passe à notre époque, où l'on voit le dimanche de moins en moins respecté, où l'on voit les magasins s'ouvrir, du moins en France, de plus en plus facilement le dimanche, où l'on voit le blasphème se répandre par la télévision et par le film, on peut dire que ces recommandations de la Vierge de 1846 ont gardé malheureusement une extrême actualité. Début de la partie secrète du message, Mélanie, elle s'adresse à Mélanie, c'est la partie secrète du message adressée à Mélanie. Mélanie, ce que je vais vous dire maintenant ne sera pas toujours secret, vous pourrez le publier en 1858. Il y avait donc l'ordre de garder ce secret rigoureusement jusqu'en 1858, pendant 12 ans, et ensuite de le publier en 1858. Et à la fin de ce message, après la fin de la partie secrète, la Vierge a terminé, ce sont ses dernières paroles, « Eh bien, mes enfants, vous le ferez passer à tout mon peuple. » C'est là qu'on voit qu'il y a une sorte d'envoi en mission de Mélanie Calva et de Maxime Agirault. Le rôle de leur vie, la mission de leur vie, c'était de faire passer par tous les moyens dont ils pouvaient disposer le message qu'ils avaient reçu au peuple chrétien. Ce message, et c'est là le grand scandale de La Salette, est pratiquement totalement ignoré. Voilà ce qu'en a dit Mélanie Calva en 1904, quelques mois avant sa mort, et en 1902. Citation au tableau du haut du... Citation Mélanie Calva. Il aurait semblé que les Français se fussent soumis, eussent reçu les sages plaintes et avertissements du ciel avec une grande humilité. Ce fut tout le contraire qui arriva. Malgré tout, j'ai continué à répandre le message, remède à tous nos maux. Et comme on ne veut pas de ce remède, la divine justice vengera l'ingratitude des hommes et donnera l'imprimature au fléau annoncé par la reine des anges. Autrement dit, si on refuse de diffuser le message, eh bien, on verra la réalité du message par les faits, par les châtiments qui sont annoncés. Deuxième texte de 1902. Les prophéties bonnes ou mauvaises ne manquent pas à la France, ne manquent pas surtout en France. Le principal, le nécessaire nous fait défaut, c'est la conversion du peuple du plus grand nombre et la fidélité au devoir par un certain nombre d'hommes. Quelques données, je n'ai pas le temps de vous lire intégralement ce message, encore je répète, vous l'avez intégralement dans la brochure bleue, un éclair dans le ciel Fatima. Voici quelques passages importants de ce message. C'est très difficile de dire ce passage est plus important qu'un autre. Tout est important dans ce message, de la première lettre à la dernière. Mais j'ai dû me limiter à quelques passages que je mets au tableau. C'est un message qui se rapporte en très grande partie, je parle de la partie secrète, à la crise des... à la responsabilité dans la crise générale des chefs religieux et des chefs politiques. Je cite le message. « Les prêtres ministres de mon fils, les prêtres par leur mauvaise vie, par leur irrévérence et leur impiété à célébrer les saints mystères, par leur l'amour de l'argent, l'amour de l'honneur et des plaisirs, les prêtres sont devenus des cloaques d'impureté. Les péchés des personnes consacrées à Dieu crient vers le ciel et appellent la vengeance, et voilà que la vengeance est à leur porte. Car il ne se trouve plus personne pour implorer miséricorde et pardon pour le peuple. Il n'y a plus d'âme généreuse, il n'y a plus de personne digne d'offrir la victime sans tâche à l'Éternel en faveur du monde. Dieu va frapper d'une manière sans exemple. » Un peu plus loin, la Vierge Marie dit ceci, car là, elle passe du plan religieux au plan politique. Les chefs, les conducteurs du peuple de Dieu ont négligé la prière, la pénitence et le démon a obscurci leur intelligence. En l'année 1864, ce qui était écrit, c'est 1864. Certains bons apôtres ont voulu dire, la Vierge s'est trompée, ou Mélanie Calva s'est trompée, c'est 1964. Non, c'est en l'année 1864. Lucifer avec un grand nombre de démons seront détachés de l'enfer, ils aboliront la foi peu à peu, et même dans les personnes consacrées à Dieu. Plusieurs maisons religieuses perdront entièrement la foi et perdront beaucoup d'âmes. Les esprits de ténèbres répandront partout un relâchement universel pour ce qui regarde le service de Dieu. Ils auront un très grand pouvoir sur la nature, il y aura des églises pour servir ces esprits. Ben, quand vous lisez ce texte 140 ans plus tard, ou 150 ans plus tard, on s'aperçoit que ces ordres religieux qui ont perdu la foi et qui font perdre la foi aux fidèles, ces églises consacrées, ces lieux de religion consacrés au culte de Satan, avec le Nouvel Âge, avec la crise conciliaire, avec la crise dans l'Église depuis tellement visible depuis 40 ans, on a l'impression que c'est ce qui était rigoureusement annoncé dans cette partie du message de 1846. Je poursuis ces extraits. « Le vicaire de mon fils aura beaucoup à souffrir. » Parce que pour un temps, l'Église sera livrée à de grandes persécutions, ce sera le temps des ténèbres, l'Église aura une crise affreuse. La sainte foi de Dieu étant oubliée, chaque individu voudra se guider par lui-même et être supérieur à ses semblables. On abolira les pouvoirs civils et ecclésiastiques, on ne verra qu'homicide, haine, jalousie, mensonge et discorde, sans amour pour la patrie, ni pour la famille. Les gouvernements civils auront tous un même dessein qui sera d'abolir et de faire disparaître tout principe religieux pour faire place au matérialisme, à l'athéisme, au spiritisme et à toutes sortes de vices. Ben, effectivement, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Le mélange de matérialisme et de spiritisme, c'est également ce qui est un petit peu le fond de la pensée de beaucoup de gouvernements et le fond de la pensée du Nouvel Âge. Dans l'année 1965, toujours dans ce message, on verra l'abomination de la désolation dans le lieu saint. Dans les lieux saints. Et ensuite, alors, sans transition, comme c'est un petit peu, comme on le voit dans certains textes de la Bible, l'absence de transition qui est certainement voulue par l'auteur du texte, la Vierge Marie, on voit arriver les châtiments. Au premier coup de son épée foudroyante, les montagnes, il parle, et la nature entière trembleront d'épouvante parce que les désordres, et elle parle d'un ange, et les crimes des hommes percent la voûte des cieux. Paris sera brûlé et Marseille engloutie, plusieurs grandes villes seront ébranlées et englouties par les tremblements de terre. Les justes souffriront beaucoup, leurs prières et leurs pénitences et leurs larmes monteront jusqu'au ciel. Jésus-Christ, par un acte de sa justice et de sa grande miséricorde pour les justes, commandera à ses anges que tous ses ennemis soient mis à mort, et tout à coup les persécuteurs de l'Église de Jésus-Christ et les hommes adonnés au péché périront, et la terre deviendra comme un désert. Alors c'est là qu'on voit la restauration de l'ordre social chrétien. Je cite encore le message, la réconciliation de Dieu avec les hommes. Jésus-Christ sera servi, adoré et glorifié, la charité fleurira partout, les nouveaux rois seront le bras droit de la Sainte Église, qui sera forte, impieuse, pauvre, zélée et imitatrice des vertus de Jésus-Christ, l'Évangile sera prêché partout et les hommes feront de grands progrès dans la foi, parce qu'il y aura unité parmi les ouvriers de Jésus-Christ et que les hommes vivront dans la crainte de Dieu. Cette paix parmi les hommes ne sera pas longue. 25 ans d'abondante récolte leur feront oublier que les péchés des hommes sont cause de toutes les peines qui arrivent sur la terre. Et ensuite, j'ai pas le temps de vous en parler, la suite du message se rapporte alors à la troisième phase, qui est la phase de l'Antéchrist, l'arrivée de l'Antéchrist. Et c'est dans cette troisième phase que figure la phrase « Et Rome perdra la foi ». Donc une première phase de grande prévarication dans le clergé, chez les responsables politiques, qui attire des châtiments, les châtiments, le retour à l'ordre social chrétien, la paix dans l'Église, le renouveau de l'Église, mais cette paix se retourne durant assez peu de temps, et après l'arrivée de la phase de l'Antéchrist, qui est décrite en détail dans l'Écriture et tout spécialement dans l'Apocalypse de Saint Jean. Voilà l'essentiel du message de... Enfin, voilà, pas l'essentiel, voilà quelques parties importantes de la partie secrète du message de Fatima, qui insistait beaucoup, je le dis, sur la responsabilité des chefs religieux, principalement, mais aussi des chefs politiques, dans l'espèce d'apostasie mondiale dont nous voyons malheureusement pas mal de traces aujourd'hui. Alors, par tous les moyens possibles imaginables, on a persécuté ce message. Si vous allez à la Salette, vous ne trouverez pas le texte du message. On vous expliquera que c'est une fantaisie, une invention de Mélanie Calva, etc., que ça n'existait pas. Mais malheureusement, heureusement, le message de la Salette a été publié avec l'imprimatur de l'évêque de Lecce en 1879. Il a été republié depuis. Et on est absolument certain de ce texte, et qui est pour nous un texte extrêmement important qui mérite d'être lu et d'être médité. Je n'ai pas cité certains passages qui étaient des véritables prophéties d'ordre politique. Une prophétie sur, je ne retrouve pas le passage, sur Napoléon. Que le vicaire de mon fils, Napoléon III, que le vicaire de mon fils, Pie IX, elle disait ça en 1846, Pie IX venait juste d'être élu pape, ne sorte pas de Rome après l'année 1859, qu'il soit ferme et généreux, qu'il combatte avec les armes de la foi et de l'amour, je serai avec lui. Qu'il se méfie de Napoléon, à l'époque Napoléon était prisonnier au fort de Ham, et on ne pouvait difficilement prévoir sa fortune politique, Napoléon III. Qu'il se méfie de Napoléon, son cœur est double, quand il voudra être à la fois pape et empereur, bientôt Dieu se retirera de lui. Il est cet aigle qui, voulant toujours s'élever, tombera sur l'épée dont il voulait se servir pour obliger les peuples à se faire élever. Et on sait que dans la vie de Mélanie Calva, on trouve de nombreuses prévision de l'avenir extrêmement précise, et on sait que quand elle était à Corinthe chez les religieuses, en quittant Corinthe, elle avait gravé sur son pupitre c'était dans les années 1853, les Prussiens à Paris en 1870. Elle avait prévu l'invasion de la France de 1870. Je passe au deuxième point qui est la... Je n'ai pas le temps de vous détailler l'histoire de ce message qui a été malheureusement terriblement éliminé. C'est un des grands scandales de voir que quand la Vierge Marie prend la peine de nous parler d'une manière très précise, avec des instructions qui sont fondamentales pour nous, eh bien on fait une croix dessus et on met une censure et on considère que c'est des documents ou qui sont fallacieux ou qui sont inutiles pour le peuple chrétien. Et c'est peut-être une des choses qui explique les larmes de la Vierge Marie. Elle pleurait pendant tout le temps, ou elle, ça a beaucoup frappé Mélanie Calvin et Maxime Giraud, elle a pleuré pendant tout le temps, où elle a donné ce message. Et c'est la raison pour laquelle elle est représentée comme étant la Vierge en pleurs. J'en reviens maintenant à un rappel assez rapide sur le... non plus sur la Salette, mais sur Fatima. Là, je vais aller plus vite parce que je pense que le sujet est mieux connu. Vous savez que la Vierge Marie est apparue à Fatima, au Portugal, en 1917, le 13 mai, et ensuite tous les 13 sauf au mois d'août, et le 13 septembre et le 13 octobre, à trois bergers. Lucie dos Santos, qui avait 12 ans, comme si la représentation d'une photo de ces trois bergers, photo prise à l'époque des apparitions. Lucie dos Santos, qui avait 10 ans à l'époque, François, son cousin, qui en avait 9, et Jacinthe, sa cousine, qui en avait 7. Vous connaissez la chronologie de Fatima, je la mets au tableau. Là encore, il y a eu des apparitions qui ont encadré les apparitions principales du 13 mai, 13 juin, 13 juillet, 19 août, 13 septembre et 13 octobre de Fatima. En 1915-1916, il y a eu 6 apparitions de l'ange du Portugal, l'ange gardien de la nation portugaise, qui est venu pour préparer les enfants aux futures apparitions et pour leur faire faire la Sainte Communion. Et après 1917, vous avez eu les deux plus jeunes, Lucie et Jacinthe, sont morts, Jacinthe et François, pardon, sont morts assez rapidement en 18-19 après les apparitions. Lucie est toujours en vie et elle a été l'objet, entre autres choses, de deux apparitions importantes, l'une qui a eu lieu à Pontevedra le 10 décembre 1925 en Espagne, et l'autre qui a eu lieu à Tuy en Espagne le 13 juin 1929. Voilà donc la chronologie de Fatima. 1915-1917, les apparitions de l'ange aux trois enfants. 1917, les six apparitions de 1917. Après 1917, 1925, Pontevedra. 1929, Tuy. Et c'est dans la foulée que l'on voit le miracle dont les enfants ont été l'objet le 13 octobre, qu'a vu la foule d'ailleurs, le fameux miracle de Fatima, le miracle solaire, répété au bénéfice du pape Pie X dans les jardins du Vatican en 1950. Pardon ? Pie XII. Depuis cette date-là, plusieurs papes sont venus à Fatima, le pape Paul VI et le pape Jean-Paul II. Quelques données sur les apparitions, là encore à titre de rappel, les texte de la Vierge Marie lors de la première apparition, voulez-vous vous offrir à Dieu pour supporter les souffrances qu'il voudra vous envoyer, un acte de réparation pour les péchés par lesquels il est offensé, de supplication pour la conversion des pécheurs. La réparation et la supplication pour la conversion des pécheurs, c'est un des grands leitmotifs de Fatima. Vous aurez beaucoup à souffrir, récitez le chapelet tous les jours, assistance sur le chapelet, c'est assez fondamental. Lors de la troisième apparition, la Vierge Marie a annoncé à l'avance le grand miracle du mois de septembre. Continuez à venir ici tous les mois, en octobre, je dirai qui je suis, ce que je veux, je ferai un miracle que tous pourront voir, pour croire, effectivement, 70 000 personnes ont été témoins de ce miracle. Et c'est également le 13 juillet qu'ont été donnés aux enfants le secret en trois parties, dont seules les deux premières parties ont été révélées. En septembre, répétition de l'annonce qu'il y aurait un miracle au mois d'octobre, donc c'est un miracle annoncé 2 mois et 1 mois à l'avance, ce qui explique que le 13 octobre 1917, il y a eu 70 000 personnes sur place pour le constater. La Vierge annonçait « Dire le chapelet pour obtenir la fin de la guerre, c'est la guerre de 14. En octobre, notre Seigneur viendra avec Notre-Dame des Douleurs et du Carmel, Saint-Joseph et l'Enfant Jésus, afin de bénir le monde. » Et enfin, vous avez eu la 6e apparition, donc celle du mois d'octobre, caractérisée par l'apparition de la Sainte Famille aux 3 enfants, suivie par la vision de Notre-Dame des Douleurs et la vision de Notre-Dame du Mont Carmel. Et pendant que les enfants voyaient la Sainte Famille, Notre-Dame des Sept Douleurs et Notre-Dame du Mont Carmel, la foule voyait le miracle solaire, le soleil qui dansait, la danse du soleil, comme on dit les paysans de Fatima. Apparition postérieure à 1917, vous avez donc l'apparition du 10 décembre 1925 à Pontevedra, où la Lucide dos Santos, la plus âgée des 3 enfants, était novice religieuse chez les Dorothées, et c'est là qu'a été précisée la promesse liée à la dévotion réparatrice des premiers samedis du mois, et ensuite apparition de Thuy, demande concernant la consécration de la Russie au cœur immaculé de Marie. Voilà pour l'historique du message. Alors, contenu du message, là encore, il faut distinguer la partie qui a été révélée tout de suite et la partie qui est secrète et qui aurait dû être divulguée après. Quels sont les points essentiels du message de Fatima ? Il y a d'abord le cadre général, l'avertissement répété par la Vierge, le danger qui pèse sur le monde à cause du péché. C'est le même avertissement que celui de la Salette. Quelle est la vérité évangélique qui fonde l'appel de la Vierge Marie ? Marie est médiatrice, elle seule peut vous secourir, dit-elle, en parlant d'elle-même aux enfants. D'où le secret de Fatima dans ses 3 parties. Voilà ces 3 parties très schématiquement résumées. Première partie se rapporte au salut des âmes par la dévotion au cœur immaculé de Marie. La deuxième partie se rapporte au salut des nations et la paix entre les nations par la consécration de la Russie au cœur immaculé de Marie. La troisième partie qui est restée, qui n'a pas été révélée, mais sur laquelle on a quelques indications par les gens qui l'ont lue, les autorités religieuses, c'est l'annonce d'un châtiment spirituel, crise de la foi dans l'Église, désorientation diabolique, c'est les propres paroles de la sœur Lucie, et défaillance des pasteurs. Et là, dans ces 3 parties du message qui ont été données aux enfants le 13 juillet 1917, salut des âmes, salut des nations, annonce d'un châtiment spirituel, se conclut par la parole suivante, « Mais à la fin, mon corps immaculé triomphera, le pape me consacrera la Russie qui se convertira, et il sera donné au monde un certain temps de paix. » On voit dans le message de Fatima, comme dans le message de la Salette, l'annonce du retour à l'ordre social chrétien, l'annonce du retour à une paix véritable chrétienne. Et quelques précisions sur ces 3 parties du message. La première partie, le salut de chacun d'entre nous, le salut des âmes par la dévotion au cœur immaculé de Marie. Texte de 1917, vous avez vu l'enfer où vont les âmes des pauvres pécheurs, juste avant la Vierge Marie avait montré l'enfer aux 3 enfants. Pour les sauver, Dieu veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. Et si l'on fait ce que je vais vous dire, beaucoup d'hommes se sont gros. Et effectivement, la Vierge Marie est venue en 1925 à Pontevedra pour préciser comment il fallait concevoir cette dévotion à son cœur immaculé. Et c'est le fameux texte de Pontevedra de 1925 que vous connaissez, que j'ai mis au tableau. La Vierge Marie disant, « Tous ceux qui pendant 5 mois, le premier samedi du mois, se confesseront, recevront la Sainte Communion, réciteront un chapelet, me tiendront compagnie pendant 15 minutes en méditant les 15 mystères du rosaire, en esprit de réparation, toujours la réparation, je promets de les assister à l'heure de la mort avec toutes les grâces nécessaires pour le salut de leur âme. » Ça, c'est l'une des grandes promesses de Fatima, c'est la promesse liée à la dévotion réparatrice des 5 premiers samedis du mois. Cette partie du secret a été révélée sur l'ordre de ses supérieurs ou l'ordre du pape, je ne me rappelle plus, par la sœur Lucie, à partir des années 1939-1940, juste avant la guerre de 40. Deuxième partie du secret, là encore on voit la même chose. Le secret est, j'allais dire, donné dans ses grandes lignes en 1917 et précisé en 1929. Que dit la Vierge en 1917 ? Pour empêcher la guerre et les persécutions, je viendrai, elle parle au futur, demander la consécration de la Russie à mon cœur immaculé et la communion réparatrice des premiers samedis du mois. Et les deux aspects, l'aspect collectif à l'échelle de l'Église, l'aspect personnel à l'échelle des fidèles. Si l'on écoute mes demandes, la Russie se convertira et l'on aura la paix, sinon elle répandra ses erreurs à travers le monde, provoquant des guerres et des persécutions contre l'Église, les bons seront martyrisés, le Saint-Père aura beaucoup à souffrir, plusieurs nations seront anéanties. À la fin, mon cœur immaculé triomphera, le Saint-Père me consacrera à la Russie qui se convertira, il sera donné au monde un certain temps de paix. Notez bien le futur, je viendrai demander la consécration de la Russie. Et effectivement, la Vierge Marie est venue le 29 mai, est venue en 1929 à Pontevedra. Et ce qu'elle a dit à Pontevedra a été ainsi précisé par la sœur Lucie dans une lettre au Père Consalves, texte au tableau. Le bon Dieu promet de mettre fin à la persécution en Russie, si le Saint-Père daigne faire et ordonne aux évêques du monde catholique de faire également un acte solennel et public de réparation et de consécration de la Russie au très saint cœur de Jésus et de Marie. Et si sa sainteté promet, moyennant la fin de cette persécution, d'approuver et de recommander la pratique de la dévotion réparatrice indiquée ci-dessus. J'ai oublié de projeter le texte de 1929, dans lequel la Vierge Marie disait ceci. Le 13 juillet 1929, Notre-Dame a dit, le moment est venu. Donc le moment est venu, le 13 juillet 1929, à Tuy. Le moment est venu où Dieu demande au Saint-Père de faire en union avec tous les évêques du monde la consécration de la Russie à mon cœur immaculé, promettant de la sauver par ce moyen. Alors, nous sommes en 1994, et vous savez que moi, que cette consécration, malheureusement, n'a pas été faite. Troisième partie du secret, on n'en connaît pas grand-chose. Le frère Michel de la Sainte-Trinité en a fait une analyse remarquable dans son livre, résumé dans la conférence éditée au Canada que j'ai montré tout à l'heure. Voilà ce qu'on peut en dire d'après les ecclésiastiques qui ont eu la possibilité de le lire et qui en ont donné quelques éléments, d'après les textes mêmes qui encadrent ce secret. Il s'agit d'un châtiment spirituel et pas d'un châtiment d'ordre temporel. La perte de la foi. L'évêque de Fatima qui a lu le secret a dit ceci, son contenu ne concerne que notre foi, la perte de la foi d'un continent est pire que l'anéantissement d'une nation. Juste avant d'ailleurs le secret, dans la partie révélée du message, il est indiqué que le Portugal conservera la foi. Deuxième partie de ce secret, la défaillance des pasteurs. Le père Alonso qui a beaucoup étudié le problème dit ceci, il est probable que le texte du troisième secret fasse des allusions concrètes à la négligence des pasteurs eux-mêmes. Ça, c'est une supposition, mais qui est vraisemblable. Il n'y a pas de cause, il n'y a pas de crise comme celle que nous connaissons sans cause proportionnelle. Le clergé est forcément un des moteurs de cette crise. Enfin, troisième aspect de ce secret, le combat décisif entre la Vierge et le démon. La sœur Lucie a dit, la très sainte Vierge m'a dit que le démon est en train de livrer une bataille décisive avec la Vierge, et c'est la désorientation diabolique qui envahit le monde et qui trompe les âmes. Avant de voir les conclusions pratiques qu'on peut tirer de ces deux messages de Sainte Fatima, faisons quelques comparaisons entre ces événements. Il y a beaucoup de points communs. Dans les deux cas, la Vierge Marie apparaît à de jeunes bergers qui gardent leurs troupeaux dans la montagne. Mélanie avait 15 ans, Maximin 10 ans, Lucie 12 ans, Jacinthe 9 ans, François 7 ans. Parmi les voyants, trois d'entre eux, Mélanie, Maximin et Lucie, survivent longtemps après les apparitions, puisque Lucie vit encore, elle a plus de 80 ans. Mélanie est morte à 73 ou 74 ans. Maximin est mort en 1875, à une cinquantaine d'années. Et les voyants qui survivent longtemps après l'apparition, les trois que je viens de citer, ont une mission, celle de faire connaître par le moyen qu'ils peuvent le message qu'ils ont reçu. Texte de la Salette, eh bien mes enfants, vous le ferez passer à tout mon peuple. Troisième élément de comparaison, les apparitions principales de la Salette, comme celle de Fatima, sont encadrées dans le temps par les apparitions qui les ont précédées pour préparer les voyants et qui leur ont suivi pour aider les voyants. communication continuelle de Mélanie avec la Vierge Marie et la Sainte Famille, l'apparition de l'ange du Portugal aux enfants de Fatima en 1516, et les apparitions de Pontevedra et de Tuy, pour ne citer que ces exemples-là. Il faut reconnaître que dans les deux cas, il semble bien que la Vierge Marie, enfin, ou un ange, ait donné la Sainte Communion aux enfants avant l'apparition, puisque aucun d'entre eux n'avait reçu la Sainte Communion, n'avait fait leur première communion avant l'apparition, dont ils ont bénéficié. Élément de comparaison également, les messages secrets de la Salette comme celui de Fatima, comme la troisième partie du secret de Fatima, qui n'est pas révélée, aurait dû être rendu public à une date déterminée, 1858 pour la Salette, 1960 pour Fatima. À la Salette, Mélanie, qui n'était plus religieuse, qui n'était pas religieuse, qui était venant d'une certaine liberté d'action, a pu remplir sa mission sans entrave, si ce n'est les multiples persécutions qu'elle a eu lieu. Elle a été aidée par de remarquables évêques italiens, en particulier Monsieur Zola, et elle a pu faire connaître le message et le faire imprimer. Tandis que la sœur Lucie, liée, je pense, par le vœu d'obéissance chez les carmélites, n'a pas le moyen de faire connaître le message qui aurait dû être révélé en 1960 et qui n'a jamais été révélé, et dont on ne connaît par raisonnement que quelques éléments que j'ai mis au tableau tout à l'heure. Enfin, autre élément de comparaison, de similitude entre ces deux apparitions, une gigantesque opposition ecclésiastique à l'un comme à l'autre. Il faut bien reconnaître que le message de la Salette tel que je vous l'ai lu, la partie secrète, est ignoré de la grande majorité du monde catholique, et l'on voit ce scandale, c'est que quand vous allez à la Salette, les chapelains de la Salette ne font pas connaître ce message et se comportent comme si c'était une falsification. Et vous avez également une grande partie du monde catholique qui ignore le message de Fatima. Regardez autour de vous la dévotion aux cinq premiers samedis du mois, dévotion réparatrice aux cinq premiers samedis du mois, l'insistance pour la consécration de la Russie au cœur immaculé de Marie par le pape et les évêques. Ce sont des données qui sont assez largement ignorées du monde chrétien. Et à côté de quelques équipes comme celle du père Gruner qui s'efforce de faire connaître ça à très grande échelle, il y a trop peu de propagande pour faire connaître et le message de la Salette et le message de Fatima. Je termine en donnant quelques indications sur les conséquences pratiques que l'on peut tirer pour notre vie quotidienne, tout spécialement du message de Fatima. Je vais davantage insister sur Fatima dans cette partie de mon exposé. Si l'on prend les indications qui ressortent de ce message de Fatima, on voit les quatre points suivants qui apparaissent soit dans le message lui-même, soit dans les commentaires qu'on a fait Lucie, Jacinthe et François. Premier point, tout centré sur le salut, le nôtre d'abord, celui de nos frères, celui de notre prochain. Deuxièmement, la pénitence par l'accomplissement des devoirs d'État. Troisième point, la dévotion au cœur immaculé de Marie. Quatrième point, le devoir de prier pour la hiérarchie catholique, pour qu'elle accepte cette hiérarchie catholique de faire ce que lui a demandé Notre-Dame à Fatima. La demande date de 1929, nous sommes en 1994, et cette demande n'a pas été satisfaite par la hiérarchie. Je précise deux ou trois points. La pénitence par l'accomplissement des devoirs d'État, c'est la pénitence, pas la seule, mais c'est la pénitence principale que demande notre Seigneur aujourd'hui, comme l'a expliqué la sœur Lucie. Un jour, elle faisait l'heure sainte dans la chapelle, et elle a dit ceci, notre Seigneur lui dit ceci, ça fait partie des apparitions dont elle a bénéficié ou des communications dont elle a bénéficié après 1917. Le sacrifice qu'exige chacun de chacun l'accomplissement de son propre devoir et l'observation de ma loi, voilà la pénitence que je demande et que j'exige maintenant. C'est un des points très importants de Fatima et très facile à comprendre. En ce qui concerne la dévotion au cœur immaculé de Marie, vous savez en quoi elle consiste. Le rosaire, la dévotion réparatrice des cinq premiers samedis du mois, conformément aux indications que j'ai mis au tableau tout à l'heure, et la consécration au cœur immaculé de Marie, des fidèles, des familles, de toutes les sociétés, et bien entendu de la Russie, à faire par le pape et par les évêques du monde entier. Je reprends le texte parce que c'est pour nous peut-être le plus important. Tous ceux qui, ça c'est l'apparition de Pontevedra en 1925, tous ceux qui pendant 5 mois de suite, le premier samedi du mois, se confesseront, recevront la Sainte Communion, réciteront un chapelet et me tiendront compagnie pendant 15 minutes en méditant les 15 mystères du rosaire. En esprit de réparation, je promets de les assister à l'heure de la mort avec toutes les grâces nécessaires pour le salut de leur âme. Il y a un autre aspect, une autre, j'allais dire, enseignement très précieux qu'on peut trouver dans la salette et qu'on trouve également assez clairement à Fatima. Je remets le texte du 13 juin 1929 qui a été donné par la Vierge Marie à la sœur Lucie. Le moment est venu où Dieu demande au Saint-Père de faire en union avec tous les évêques du monde la consécration de la Russie à mon cœur immaculé, promettant de la sauver par ce moyen. Nous savons que la demande pressante, ainsi formulée il y a 65 ans ou davantage, oui 65 ans maintenant, n'a pas été exécutée. Nous avons vu se réaliser, j'ai pas eu le temps d'en parler, ce qu'avait annoncé la Vierge Marie, pour le cas où l'on refuserait de l'écouter, des guerres mondiales, d'immenses désordres, les erreurs de la Russie répandues dans le monde entier, des massacres de chrétiens par millions, on pourrait même dire par dizaines de millions. Devant le pareil malheur, que fait la Vierge? Point d'interrogation, elle attend. Elle attend que les autorités responsables, le pape et les évêques, fassent ce qui leur a été demandé en 1929. Elle veut passer par la hiérarchie de l'Église mise en place par son fils, quelles que soient les déficiences de cette hiérarchie, de la hiérarchie légitime. La Vierge ne lui suscite pas une hiérarchie parallèle. Et comme l'explique très bien le père Joseph de Sainte-Marie dans sa brochure « Fatima, salut du monde », Marie ne supprime pas les médiations ecclésiales, le pape, les évêques, la hiérarchie, elle ne prétend pas remplacer l'Église et ses institutions, et je crois qu'on peut là retenir une leçon qui vaut pour tous les temps. En conclusion, on peut dire que nous avons, avec le message de la Salette et le message de Fatima, de lumière extrêmement importante, impressionnante, mais réconfortant, puisque nous avons à la fois l'annonce des châtiments et l'annonce des remèdes qui sont faciles à mettre en œuvre, tout spécialement la dévotion au cœur immaculé de Marie, et l'exercice rigoureux, précis, exact de nos devoirs d'État. Et nous avons là, à partir du moment où nous connaissons ces messages, il me semble que c'est un devoir d'État pour chacun d'entre nous de les faire connaître, parce que ce qui est redoutable dans le monde catholique actuel, ce qui est absolument redoutable, c'est l'ignorance dans laquelle les gens sont tenus, non seulement de leur doctrine, mais même des grâces particulières qui leur ont été faites par le ciel. Et je pense que ces deux apparitions de la Salette et de Fatima figurent parmi les plus grandes grâces que le ciel nous a données au cours des 150 dernières années. Voilà, j'ai été un peu plus long que prévu, mais c'est... Combien de temps ça a duré combien de temps? J'ai pas fait attention. 40 minutes. C'est difficile de faire la comparaison, tandis que nous ne connaissons pas la teneur du troisième secret. Et ce qui ressemble le plus au message de la Salette dans le message de Fatima, c'est le troisième secret qui n'est pas connu. Alors pourquoi est-ce que dans le tout ce qu'on sait, c'est que ces messages ne sont pas comparables en ce qui concerne la longueur. On sait que le message de la Salette, j'ai le texte ici, si vous voulez, en typographie assez serrée, ça fait 1-2, ça fait 4 pages, vous voyez, de 5 pages de typographie serrée. C'est pas long, mais c'est quand même... Alors qu'on sait que le feuillet sur lequel la sœur Lucie a écrit le secret complet, y compris le troisième, c'est quelques pages manuscrites, c'est certainement beaucoup moins long que ce qui est dit. En général, la Sainte Vierge ne se répète jamais. Elle répète, il y a des consignes, évidemment, qu'elle répète, comme de dire le chapelet, etc. Mais chaque apparition a un caractère spécifique. Il est certain qu'un des aspects impressionnants du message de la Salette, c'est toute la description de l'arrivée de l'Antéchrist. J'ai pas eu le temps de vous en parler. Est-ce qu'il y a ça dans le message de Fatima? Nous n'en savons rien. Là, je ne peux pas répondre à votre question, parce que je pense qu'il nous manque des éléments, étant donné que Fatima, et c'est une chose qui est, ça fait partie des désordres de l'époque actuelle, Fatima reste encore inconnue.
Est-ce qu'on pourrait peut-être essayer de répondre en regardant les livres d'histoire ecclésiastique, l'histoire de l'Église depuis la Salette jusqu'à Fatima, entre les deux, il y a eu la consécration du genre humain au Sacré-Cœur de Jésus par Léon XIII à l'aube du XXe siècle. Et cette façon, je dirais, rituelle, d'exercer, si vous voulez, un peu une influence spirituelle par la consécration, comme un acte solennel, constituant, inauguré par Léon XIII, on voit après ça le cœur immaculé de Marie. Sacré-Cœur, le cœur immaculé de Marie. C'est comme dans une suite, ça s'inscrit peut-être. Là, dans un geste comme ça, il semble que tout serait sauvé. On oublie justement la gravité du message de la Salette qui ne peut pas être pris par tout le monde. Les gens, ça, c'est plutôt adressé au clergé. On a passé bien des passages assez sévères concernant le clergé, c'est-à-dire aussi, c'est, sont devenus des cloaques d'impureté.
Dont ont été victimes tous ceux qui s'étaient opposés au message de la Salette.
Mais est-ce qu'on peut dire que le message de la Salette a été vraiment officiellement reconnu par l'Église? Comme Fatima, ça a été reconnu d'abord au niveau du diocèse, ensuite, je crois, dans les années 30, à Rome, on s'est prononcé pour reconnaître la validité de l'apparition et du message.
Alors, c'est la reconnaissance.
Il y a une ambiguïté au niveau de la réception du message de la Salette.
Le fait que le message de Salette ait été publié en 1879 avec l'imprimature de l'évêque de Lecce et qu'il n'y eut aucune contre-attaque, si ce n'est des trucs falsifiés, de la part de l'autorité romaine, prouve implicitement que c'est accepté. Je crois que c'est très important. Cette publication de Lecce avec l'imprimature de l'évêque de Lieu, c'était bien Monsieur Zola à l'époque. Oui.
Concernant le troisième secret, qu'est-ce qui fait qu'il n'a pas été encore divulgué? C'est quoi? Est-ce qu'il y avait des dates là, comme ce qu'on a vu pour la Salette, là où on devait publier? C'est quoi?
Oui, c'est un élément de comparaison, puisque la Salette, le secret de la Salette devait être publié, mais Mélanie l'a fait avec un peu de retard, parce qu'elle a fait ce qu'elle a pu. Elle était coincée comme carmélite à Darlington, en Angleterre, en 1858. Elle a pu se dégager du Carmel, et à ce moment-là, elle a fait circuler le secret de la Salette à partir de 1860. D'abord sous forme manuscrite, ensuite sous forme imprimée. En ce qui concerne Fatima, c'est une analogie entre Fatima et la Salette. La Vierge Marie a demandé que le secret soit révélé. Elle a donné deux règles, ou à la mort de Lucie, ou en 1960. La première de ces deux dates. Or, tout le monde chrétien attendait la publication du secret en 1960, ça n'a pas été fait. Alors pourquoi, ça je n'ai pas d'élément, mais enfin on peut penser que les raisons qui ont fait obscurcir le message de la Salette sont celles qui conduisent peut-être certaines autorités ecclésiastiques à ne pas divulguer le message de Fatima.
Mais est-ce que ça peut être attaché directement à l'autorité du souverain pontife? Parce que moi, j'ai lu, bon, je ne peux pas dire que je ne peux pas confirmer l'autorité là, des sources, mais j'ai lu à certains endroits que par exemple, Paul VI aurait pu être empoisonné à cause qu'il voulait publier. Donc, c'est un peu. Quand Paul VI est mort, il a été trouvé dans son lit avec le secret. Il avait fait la lecture.
De Jean-Paul Ier. Jean-Paul Ier, celui qui n'a pas été longtemps.
Il
y a des choses qui circulent là-dessus.
Puis qu'il y avait, il n'y avait pas eu d'autopsie, il y en avait qui avaient demandé l'autopsie, etc. Il y en avait vraiment, il y avait des suspicions, etc. Bon, ça se tait.
Mais si vous voulez, comme la chose est remarquée dans le livre sur la Salette, c'est pas nécessairement le rôle du Saint-Père de divulguer un message. Il peut simplement faire lever des interdictions qui n'ont pas de raison d'être. Dans le cas du message de la Salette, ce n'est pas le pape qui l'a divulgué, c'est Mélanie elle-même, avec l'appui de l'évêque dans le diocèse duquel elle vivait. Là, il y a un blocage en ce qui concerne la sœur Lucie. Le pape pourrait lever ce blocage. Il ne l'a pas fait. Ah, c'était le message, c'était prévu que c'était le pape qui devait révéler. Ça, je ne le savais pas, oui. Nous, tout ce que nous pouvons faire dans ce moment-là, c'est de prier pour que le pape fasse ce qu'on lui a demandé. C'est là que la prière des fidèles pour le pape est une chose très importante. Et c'est les trois enfants de Fatima ont insisté énormément sur le devoir qu'ont les fidèles de prier pour le pape. C'est fondamental.
Seulement, surtout au point de vue de la dévotion, du salut de notre âme, de notre salut, du salut des âmes, d'accord. Ça ne peut plus se perdre dans la prière. Mais au point de vue historique, l'histoire de l'Église, Fatima, regardons 1929. Le 13 juin 1929. C'est l'année 1929 du désaccord du Latran. C'est Pie XI, c'est la crise économique. Et puis, en 1939, c'est la Première Guerre mondiale. Puis, d'où vous arrivez, en 1939, et puis c'est la guerre. Alors là, Pie XII a pris connaissance du message de Fatima. Pie XI, là, le cataclysmique dans la troisième partie, il était au courant de ça. Puis en 1929, faire la consécration de la Russie avec les 29 millions qui arrivaient au Vatican, toute cette nouvelle chose. Mais Pie XII, probablement Pie XII, en faisant la consécration du genre humain, comme vous l'avez noté, Pie XII, en 1942, déjà en pleine guerre, la consécration du genre humain au cœur immaculé de Marie, Pie XII, ça a été vraiment, il a vu le miracle du soleil en 1950, ça a été rapporté, il a voulu. Et au plus tard, en 1960, il est mort en 1958. En 1960, c'est exactement, on est parti pour la gloire avec Vatican II. Quand Jean-Paul Carl, le pape Jean XXIII est arrivé, il l'a vu aussi, le message. Fini les prophètes de malheur. Alors, ça a été deux chances en 1929, et probablement que la consécration de la Russie, à l'époque de l'anticommunisme des années 20, 1929, à l'entrée de guerre, probablement que ça aurait probablement empêché de répandre ces erreurs dans le monde entier. C'était comme une espèce d'antidote. Mais si on ne le fait pas, là, on va avoir la catastrophe, ce qu'on a aujourd'hui. Mais il n'est jamais trop tard, à la fin. Et en attendant, on a eu ça, ça a été le châtiment, c'était la Deuxième Guerre mondiale. Puis c'est l'Église, on a endormi l'Église avec cette histoire de comportement. Ça peut avoir un bon aspect, mais sur un autre aspect, ça n'a pas été aidé, la dévotion de l'humain. Quand on parle de triomphalisme, ben c'est les années 20, c'est à partir de 1929, on était avec Pion, on s'en fait. Alors, c'est tout ça, le triomphalisme comme tel, ça part de l'Église triomphaliste. C'est pas à l'époque de Pie X. L'Église n'était pas triomphaliste. Quand le pape était prisonnier, il ne va pas sortir, il était vraiment avec triomphaliste. En 1929, c'est là qu'on a manqué notre chance. En 1929, la guerre. En 1960, Pie XII était mort. Pie XII était le pape. Il a réussi à faire canoniser son fils de plein de misères. Parce qu'il avait connu Pie XII quand il était jeune. Quand il était ordonné prêtre. Il était ordonné évêque le 13 mai 1917 par Benoît XV, le jour où la Vierge apparaissait. Il y a des choses au niveau de l'histoire. Il faut voir que c'est quand même des points dans l'histoire du livre depuis la Salette. Là. Donc, on s'en va vraiment
Il y a, en relation avec ce que vous dites, il y a une chose importante. C'est le problème pour nous, le simple fidèle, c'est de bien nous situer et ne pas dire si j'étais pas, je ferais ça. Si j'étais pas, je ferais ça. Ça ne regarde pas. Il faut rester fidèle, c'est le bord d'état. Alors, pour l'application des demandes de la Vierge Marie, elle a montré justement ce que nous fidèles, nous simples fidèles, nous pouvons faire. Voici un texte de Sœur Lucie du 19 mars 1939. De la pratique de la dévotion des premiers samedis du mois, unie à la consécration de la Russie au cœur immaculé de Marie, dépend la guerre ou la paix du monde. Alors nous, la consécration de la Russie au cœur immaculé, ce n'est pas nous qui devons la faire, c'est le pape et les évêques. Mais nous, par contre, la pratique de la dévotion des premiers samedis, nous pouvons le faire. Il est possible, il est très probable, il est possible en tout cas que si le pape ne fait pas ce que lui a demandé la Vierge Marie, c'est parce que les fidèles n'ont pas fait eux-mêmes ce qu'il leur était demandé et ce qui était à leur portée, c'est-à-dire cette dévotion réparatrice au cœur immaculé de Marie, qui a une importance absolument gigantesque. Non seulement la connaître intellectuellement, mais la pratiquer avec la dévotion convenable. Alors, en relation avec ce que vous disiez sur la consécration du monde, au cœur immaculé de Marie, qui a été faite en 1942 par le pape Pie XII, c'est pas exactement ce qui a été demandé à Fatima, et la sœur Lucie a précisé à de multiples reprises, à Fatima, la Sainte Vierge s'est référée exclusivement dans ce monde à la consécration de la Russie. Et c'est cette consécration de la Russie qui n'a toujours pas été faite, suivant les spécifications données à Thuy en 1929. Mais je pense que ce qui est consolant pour nous, c'est de dire, dans cette affaire terrible, nous pouvons jouer un rôle en ce qui nous concerne, en étant fidèles à nos devoirs d'État et en pratiquant cette dévotion réparatrice des premiers samedis du mois, du cœur immaculé de Marie, et surtout et en la faisant connaître. Alors même dans les chapelles traditionnelles, il y en a beaucoup, c'est pas le cas à Versailles, parce que là où nous sommes à Versailles, Mère Berger et moi, on a le premier samedi du mois est indiqué comme premier samedi du mois, après le premier vendredi, mais dans beaucoup de chapelles traditionnelles, même cette dévotion est, je ne dis pas ignorée, mais sous-estimée. Quoi. Je ne crois pas, parce que si vous voulez, je pense qu'il faut prendre ce message comme il est, si vous voulez, difficilement interprété, mais il faut quand même voir où se situe cette phrase. Alors, dans le troisième secret, dans le secret de la Salette, il y a trois parties. Il y a le désordre actuel, première partie, dans le clergé, dans les simples fidèles, dans les chefs politiques. Deuxièmement, les châtiments. Troisièmement, le retour à l'ordre après les châtiments, qui durera 25 ans. Et ensuite, la phase de l'Antéchrist, avec sa préparation. Or, la phrase « Rome perdra la foi » figure dans la phase de l'Antéchrist. Elle ne figure pas, ça figure après le retour de l'ordre social chrétien, qui est certain, mais qui ne sera pas très long, et pas avant. Alors, ce qui est la phrase qui est avant, et qui, je crois, est une description très exacte de notre situation, c'est la phrase suivante, « L'Église aura une crise affreuse ». Ça, c'est pour aujourd'hui. Mais la phrase « Rome perdra la foi », c'est dans la phase antéchrist. Donc je ne crois pas qu'on puisse, je ne vois pas comment on pourrait appliquer à aujourd'hui cette phrase qui se rapporte à une phase où, d'arrivée de l'antéchrist, nous n'y sommes pas, puisque entre l'arrivée de l'antéchrist et aujourd'hui, il y aura les châtiments annoncés et le retour à l'ordre social chrétien.
De la même façon, nous ne sommes pas au temps de l'antéchrist.
Ah non, non, non. Monsieur Lassie. Parce que nous ne soyons pas au temps de l'antéchrist, il y a... À mon avis, si vous prenez le message de Marguerite Marie, du Sacré-Cœur de Marguerite Marie, où il est annoncé le triomphe du Sacré-Cœur, le message de Fatima, mon cœur immaculé triomphera, il sera donné au monde un certain temps de paix. Le message de la Salette, on s'aperçoit que ce retour de l'ordre social chrétien, ce retour d'un véritable ordre politique, religieux, etc., est une chose qui nous sépare, qui est une chose certaine, et qui nous ne savons pas si c'est dans quand ça se produira, mais c'est un événement très important qui nous sépare de la phase de l'Antéchrist.
Oui. Aussi, peut-être, d'un point de vue eschatologique, vous avez raison, je suis absolument votre raisonnement, votre développement. Mais au point de vue histoire pratique, terre à terre, sur le terrain, 1846, Karl Marx, en même temps, avec le manifeste du Parti communiste, la révolution de 1848, déjà, 2 ans après, en Europe. Après ça, Napoléon, ce qui se méfie ni d'autres. La France, l'Italie, le Saint-Siège, la papauté, la crise de la papauté, à cette époque-là, Rome perdra la foi. Rome qui a été le cœur de la chrétienté, où les papes ont fait beaucoup pour la ville de Rome. La foi, la fidélité du peuple romain, la ville de Rome envers la papauté. Parce que quand il y a eu la mission Garibaldi, puis tous les républicains, la franc-maçonnerie, puis les hautes ventes en Italie, Rome perdra la foi aussi. On peut dire que Québec perd la foi, en sens de la fidélité à la foi, fidélité au Saint-Siège, le pape aura beaucoup à souffrir. Donc il peut avoir aussi, sans avoir une portée eschatologique, comme vous le montrez au niveau des grandes étapes de la tribulation, aussi une tribulation plus locale. Par rapport à Rome, où le père, moment, parce qu'on voit Napoléon, et même Napoléon en disant en 1846, comme vous disiez tout à l'heure, il n'était pas encore, il n'a même pas eu le Second Empire, il n'avait pas eu la Deuxième République, il n'avait pas eu les événements de 1848, on est encore en monarchie en France. C'était la monarchie constitutionnelle d'Orléans. C'était le dernier roi en France, Louis-Philippe. Ça a été la. Il y a un aspect aussi tout à la.
J'en viens sur la phrase de Vosicier. La phrase exacte, je l'ai sous les yeux maintenant, dans la phase où elle décrit l'arrivée de l'Antéchrist avec ses frères, etc., etc. Voici la phrase qui figure dans le secret de la Salette. Rome perdra la foi et deviendra le siège de l'Antéchrist.
L'antéchrist
aussi,
c'est la
franc-maçonnerie, c'est la franc-maçonnerie
qui
a pris avec
Victor
Emmanuel,
qui a pris
le
contrôle avant
de
la
Pâque.
Oui, mais dans le message de la
Salette,
l'antéchrist, c'est un homme.
Aussi. Ah oui, l'antéchrist, aussi, mais... Oui. Ce sera pendant ce temps que naîtra l'antéchrist d'une religieuse hébraïque, d'une fausse vierge qui aura communication avec le vieux serpent, le maître de l'impureté. Son père sera Evé, en naissant il vaudra de la fin, etc.
Pourquoi
Evé? Évêque, je pense.
Mais pourquoi? Oui, je sais que ça veut dire évêque, mais pourquoi est-ce que c'est écrit seulement Evé et non pour
vous? C'est comme ça, on sait rien. Vous avez une question posée? Oui.
Oui, concernant toujours le troisième septembre, la date de tombée, tu dirais, là, prenant la mort de celui-ci, de 1960, oui. Est-ce qu'on peut voir, disons, un parallèle sans savoir le contenu? Est-ce qu'on peut voir un parallèle avec le contenu dont les pontifs ont le droit, de prendre connaissance du secret, en théorie? Est-ce qu'on peut voir un rapport entre le déclenchement du concile, deuxième concile Vatican II, puis le contenu avec sans dire que Rome a une nécessairement perdu la foi en déclenchant le concile, mais en disant que bon, il y a eu des gros bouleversements, comme il y a eu comme la gangrène qui a pas quelque part. On peut faire un parallèle entre le contenu du sans savoir, puis le déclenchement du concile par le pontife. Ça serait dû.
Est-ce qu'on ne sait pas si vous, c'est que. À quelle date, Jean 23, après connaissance du troisième secret de Fatima, et par rapport au moment où il a dit qu'il était inspiré par le ciel pour ouvrir le concile. Ça, il l'a dit très tôt après sa venue, très peu de mois après sa prise en charge du souverain pontificat. C'est 1024, c'est l'année du syllabus et de Cantacura, avec le gigantesque déclenchement d'opposition qu'ont soulevé ces documents.
Il n'y avait pas eu un contre-syllabus, justement, à la même époque, les hautes ventes de la franc-maçonnerie, je pense qu'il y avait fait...
Il y en a deux, 64 et 65. Il y a 64 et 65. Je crois que la phrase s'explique presque par elle-même. Voilà la phrase du message. En l'année 1864, Lucifer, avec un grand nombre de démons, seront détachés de l'enfer. Point virgule. Ils aboliront la foi peu à peu. Autrement dit, c'est le début d'un processus dont l'aspect visible ne peut intervenir que plus tard. Alors, autre date qui est donnée, dans l'année 1865, on verra l'abomination dans les lieux saints, dans les couvents, les fleurs de l'église seront putréfiées. Alors là, ça fait deux dates, effectivement, 64 et 65. Non, mais c'est des événements qu'on connaîtra peut-être plus tard. On n'a pas encore la clé. Aussi.
Il me semble qu'elle dit que l'Antéchrist naîtra d'une religieuse hébraïque aussi, et il pousserait des cris de blasphème en le monde.
Mais tout ça, c'est dans la salette aussi.
Oui. Prenez le message de la salette et vous pourrez comparer comme ça. Bon, oui.